Le père Rysinski, le père Joseph, pour ceux qui le connaissent bien, est d'origine polonaise. Il est né dans ce milieu de sous-prolétariat, ce milieu d'exclus, auquel il consacre maintenant tous ses efforts. Il y a 25 ans, il a fondé une association qui a maintenant des ramifications autour du monde et qui s'appelle Aide à toute détresse. Père Rysinski, vous dites de ce milieu de sous-prolétaires que vous connaissez bien, vous dites que c'est un milieu où la misère se transmet comme un héritage, un milieu dont on est prisonnier, dont on ne peut pas sortir. Et vous, pourtant, vous êtes un religieux, vous avez reçu une instruction, vous êtes la preuve qu'on peut en sortir.
Et puisque j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie des prêtres qui étaient des vrais prêtres parce que ils avaient mis, j'allais dire, au fronton de leur presbytère, ici tout homme qui se présente est accueilli, tout homme qui se présente est un frère. J'ai eu la chance de connaître ainsi des prêtres qui, au moment les plus durs de la vie de ma maman, par exemple, ont été présents auprès d'elle. Ce n'étaient pas des prêtres qui nous faisaient beaucoup de charité. Ils étaient très pauvres eux-mêmes, puisqu'ils donnaient tout. Mais c'étaient des hommes qui comprenaient que la misère, c'est non pas simplement une question d'argent, c'était pas simplement de manquer de pain, c'est ça bien sûr, mais que c'était de donner le pain avec tellement d'amour et tellement de cœur que le pain avait goût de gâteau, de brioche, si je peux m'exprimer ainsi. Et le curé de ma paroisse, c'était un homme comme cela. Il venait deux fois par an voir maman et restait avec elle une ou deux heures. Et on préparait la fête de la venue du curé de la paroisse. On mettait des fleurs, on faisait des économies pour acheter des petites choses. Moi-même, je volais pour pouvoir lui faire des cadeaux. Au fond, toute la maison était sans dessus-dessous parce que le curé allait venir. Et pendant le temps qu'il parlait à maman, c'était un temps vraiment de grâce, de présence de Dieu. Et ma mère sortait de ce contact avec son curé, sortait toute regaillardie, toute nouvelle, toute rajeunie. Moi, quand j'étais enfant, je me disais, quand je serai grand, eh bien, je ferai comme cela. Je ferai comme ce curé-là. Je m'occuperai des gosses, comme moi-même, qui était un gosse qui est bien misérable et qui ne mangeait pas tous les jours son comptant, mais qui avait la chance d'avoir ainsi une mère qui pouvait entretenir des relations si profondes avec un homme qui était un homme de Dieu.
Vous avez dit que vous voliez, vous auriez pu devenir un voleur au lieu de devenir prêtre.
Oui, d'ailleurs, quand j'étais enfant, on a dit à ma mère qu'il fallait me placer, que je serais bien mieux si j'étais recueilli chez les orphelins d'Auteuil, parce que tout le monde disait il deviendra un voleur. Et je suis devenu un voleur, parce que de toute manière, un prêtre, il vole toujours quelque chose. Il cherche au moins à rencontrer les cœurs et à se les gagner. Et aussi, il cherche à faire que les âmes rencontrent Dieu. C'est un pêcheur d'hommes, un prêtre. C'est un pêcheur d'hommes. C'est quelqu'un qui essaie de ramener à l'Église tous ceux qui souffrent, qui ont faim, qui pleurent.
Mais est-ce que vous étiez de ce milieu de mauvais pauvres auquel vous vous attachez plus particulièrement maintenant, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment exclus, ceux qui sont rejetés, ceux qui n'ont plus que la violence pour langage?
Il n'y a pas de mauvais pauvres. Il y a des êtres qui ont été maltraités par la vie et que les autres n'ont pas reconnu et compris. Il n'y a pas de mauvais pauvres autour du Christ. Tout le monde était là et tout le monde faisait partie du cortège. Et il y avait les moins pauvres, les plus pauvres, il y avait les miséreux, il y avait ceux qu'on montrait du doigt. Et aujourd'hui, je crois que c'est la même chose dans les cités. Les hommes qui sont enfermés sont ceux qui ont été marqués par un héritage profond de misère, mais personne ne veut la misère. La misère, c'est pas, je dirais, c'est pas un héritage que l'on convoite. On vous l'impose, vous la subissez, et vous vous efforcez, avec la misère qui est sur vos épaules, d'être le moins mauvais possible. Je n'ai jamais rencontré, et ça je peux le dire en parenthèse, je l'ai rencontré parfois ailleurs, des gens qui sont des calculateurs, des gens qui sont mesquins, des gens qui sont menteurs, et vraiment voleurs. Je n'ai jamais rencontré ni des menteurs, ni des vrais voleurs dans le monde de la misère. J'ai rencontré des malheureux, des gens qui souffrent, c'est tout à fait autre chose, et qui ne veulent pas leur situation, ni pour eux, ni pour leurs enfants, et qui, au fond, ne trouvent pas toujours, et rarement d'ailleurs, des hommes et des femmes pour les comprendre, les écouter, perdre du temps avec eux.
Vous dites qu'il n'y a pas de mauvais pauvres, mais c'est comme ça qu'on désigne ceux auxquels vous vous attachez. Vous les appelez, vous les exclus. Vous dites qu'ils sont exclus de tout.
Oui.
Ils sont exclus du travail, ils sont exclus des syndicats, ils sont exclus de leurs droits, des droits à la personne.
Mais ce n'est pas parce que les autres vous excluent que vous êtes un mauvais pauvre. Ce n'est pas parce que les autres vous excluent que vous êtes méchant. Si les autres vous excluent, c'est parce que parfois ça arrange tout le monde. Vous comprenez de ne pas avoir à soutenir à l'usine un travailleur qui n'en peut plus de fatigue, un travailleur qui n'a pas appris de métier, qui ne sait pas se servir de ses quatre doigts. C'est parfois bien plus facile de dire de quelqu'un qui n'est pas intéressant que de l'aider, parce que l'aider supposerait qu'on accepte de faire avec lui un bout de route, et parfois un bout de route qui est long. Au fond, c'est souvent des prétextes. On exclut des gens, on refuse de les prendre en compte, parce que au fond, les hommes sont ainsi faits que ils ont peur de ceux qui en demandent trop. Qui en demandent trop, c'est-à-dire qui demandent trop d'amour. Parce que vraiment, pour sortir quelqu'un de la misère, il faut beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour.
Ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Oui, c'est il faut être, se mettre à la place et se dire, celui-là, il est capable comme moi de vraiment de parler, d'aimer, de prier. Mais on croit que ceux qui sont dans la misère sont comme des pierres et des morceaux de bois, qu'ils ne pensent pas, qu'ils ne réfléchissent pas. On les traite un peu comme des enfants. Or, le Christ nous a dit, ce sont ceux qui ressemblent à des enfants qui rentreront au paradis. On serait peut-être très, très curieux que la prophétie du Christ se réalise, qui disait que les prostituées, et sous-entendu la racaille, sera ceux-là qui seront les premiers dans le royaume des cieux pour accueillir les gens bien, les gens que l'on dit bien.
Vous dites ils sont parfois comme des enfants, mais ils n'ont pas toujours la grâce de l'enfance. Je pense, par exemple, à ces femmes ou à ces hommes qui ne se lavent pas, qui n'ont pas de vêtements de rechange, qui arrivent tout à coup à l'hôpital et qui sentent mauvais. Le personnel hospitalier n'est pas très heureux de les accueillir. Tout le monde les rejette.
Oui, mais c'est pas agir comme des enfants, parce que sinon, il faudrait dire que tous ces jeunes qui, à un moment donné, ne se lavaient pas, ils sentaient mauvais à 10 pas d'eux-mêmes. C'était des enfants, c'était pas des enfants, c'était des contestataires d'une société. Et ici, c'est vrai, parfois, on est étonné de voir la négligence que semble, n'est-ce pas, au fond, à voir les familles, des mères ou des pères. Et alors, je ne peux pas ne pas songer à ma mère. C'est souvent en référence à elle que je me situe par rapport aux plus pauvres. Quand ma mère restait là, des nuits entières assise, inerte, sans bouger, parce que le lendemain, elle savait qu'elle n'avait rien à manger. Elle ne pensait pas à se laver, vous savez. Elle ne pensait pas à se faire coquette. Elle pensait seulement que les gosses auraient faim. Quand vous sortez d'une entrevue avec une assistante sociale et qui vous parle de vous retirer vos gosses, ou un homme qui arrivait le matin à l'atelier ou à l'usine se trouve renvoyé sous un prétexte d'un vol qu'il n'a pas commis, j'en ai connu, etc. Et alors ne vous étonnez pas que parfois, ce qu'on appelle la propreté n'est pas tellement importante. Au fond, on n'y pense même pas. On n'y pense même pas. Ce qui compte, vous savez, c'est pas les odeurs des gens, c'est, je dirais, ce que le cœur des gens porte, j'allais dire, de baume.
J'essayais de voir qu'est-ce qui fait peur aux gens, parce que vous disiez la misère fait peur, elle repousse. Alors, il y a ça, mais il y a aussi le fait que souvent dans ces milieux, ce qui fait nos règles de conduite à nous ne peuvent plus être suivies. Les gens ne peuvent plus respecter les lois, ça n'est plus le même langage, ni le même comportement. Comment faire le pont?
Moi, qui l'insulte, ça fait toujours peur. L'étranger fait toujours peur. On ne sait pas à qui on a affaire, mais moi, je crois que plus profondément, ce qui fait peur aux gens, je vais dire surtout aux chrétiens, ce qui fait peur aux chrétiens, c'est parce qu'ils savent très très bien qu'ils ne sont pas fidèles à celui quand même qui était le pauvre, et que s'ils étaient fidèles, il faudrait qu'ils changent de vie. Il faudrait qu'ils acceptent de s'appauvrir, de perdre du bien. Il faudrait qu'ils acceptent, n'est-ce pas, de ne pas dépenser comme ils le font. Ils seraient obligés, n'est-ce pas, d'avoir une autre attitude, hein, vis-à-vis même de leurs proches, de façon à s'habituer à avoir une attitude différente vis-à-vis des pauvres. Moi, je crois que ce qui fait peur, c'est que on ne peut pas devant un pauvre ne pas se poser la vérité de soi-même, la vérité des soi-disant idées que nous avons, des principes qui sont les nôtres, car le pauvre met toujours en cause, je parle de très pauvre, eh bien, nos idées sur la démocratie, nos idées sur l'évangile, nos idées sur la religion. Le pauvre, il n'y a pas de problème, il nous en sert de partout, il nous met au pied du mur. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est la question qu'on posait au Christ. Qui es-tu? Et le Christ disait, moi je suis le Fils de Dieu. Mais ça veut dire quoi, je suis le Fils de Dieu? Je suis le pauvre parmi vous. Je suis le sans défense parmi vous. Je suis le rejeté, l'exclu, le mal compris, le mal aimé parmi vous. Qui es-tu? Est-ce que nous pouvons dire, nous chrétiens, devant le pauvre, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que la société ne crée plus de misère, ne crée plus de misère? Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles, et la raison à mon avis fondamentale, et le reste ce sont des prétextes, la raison fondamentale pour lesquelles, eh bien là, on a peur des pauvres.
On se sent coupable et on se sent lâche, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire si les structures de nos sociétés qui sont organisées pour la sécurité sociale, le revenu minimum garanti, tout, si les structures ne peuvent pas atteindre tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut casser le système?
Les structures doivent pouvoir atteindre tout le monde, autrement, ça voudrait dire qu'elles sont inhumaines, car les structures sont faites pour tous les hommes. Dans une société donnée, comme les structures d'église sont faites pour tous les hommes, pour tous les chrétiens, pour tous les baptisés, et pour tous les hommes, quels qu'ils soient, vous comprenez? Mais moi, je pense souvent à ça quand je suis dans une église, et que je regarde ce que j'y vois, je vois que l'Église s'est constituée, elle s'est créée par les gens de la classe moyenne qui l'ont complètement accaparée et qui bâtissent une liturgie, bâtissent un langage, créent un sacramentaire et qui est à leur mesure. Alors, ce qui est vrai pour l'Église, qui devrait ne pas être, parce que s'il y a une institution qui devrait être faite pour les pauvres et qui devrait être bâtie pour les pauvres et qui devrait faire fi du reste et devrait s'occuper exclusivement que des pauvres, c'est tout de même bien l'Église. Et toutes les Églises d'ailleurs, hein, c'est la vocation fondamentale que tous les fondateurs d'Église ont donnée, hein, à l'institution. Si c'est vrai pour l'Église, si l'Église, n'est-ce pas, eh bien, peut se laisser ainsi accaparer par les classes moyennes, la société, c'est la même chose, c'est ça, s'accaparer par les classes moyennes. Nous n'avons pas une école démocratique pour tout le monde, nous avons une école pour une catégorie de gens. Nous n'avons pas le travail n'est pas organisé pour tous les hommes, pour tous les travailleurs, mais pour une catégorie de travailleurs. Voyez-vous, l'habitat n'est pas, au fond, bâti et conçu pour les familles qui ont des enfants à élever, qui ont des difficultés. L'habitat est conçu pour ceux qui ont l'argent pour payer. Enfin, toute notre société est ainsi conçue. Au fond, nous acceptons que les très pauvres, au fond, soient en permanence et continuellement étrangers chez nous.
Et vous dites que c'est une priorité de s'occuper des exclus si on veut que la justice existe dans nos sociétés.
Oui, parce que d'abord, eux, ils ont à nous dire beaucoup de choses sur la justice, vous savez, car ils ont vécu une injustice, ils savent ce que c'est, eux, d'avoir été maltraités, de ne pas avoir des moyens pour élever les enfants. Ils savent ce que c'est que d'être lésé en tout, d'être mal payé au travail, de ne pas être protégé ni dans sa santé, ni dans ses droits. Ils savent ce que c'est d'avoir toute leur vie, ils savent ce que c'est toute leur vie d'être ainsi bafoué dans leurs droits. Ils savent aussi ce que c'est qu'être la liberté quand on dépend continuellement d'une administration qui est tatillonne, épicuse vis-à-vis de vous, d'arbitraire. Les pauvres savent ce que c'est que de dépendre des œuvres de charité, des dames de charité, des hommes de charité, de tous ceux qui viennent là et qui vous encombrent pour vous donner des miettes, qui n'en veulent toujours que des miettes. Hein. Alors, ils peuvent nous parler de la liberté. C'est Sakharov qui peut nous parler de la liberté, mais les pauvres qui sont à notre porte peuvent nous parler de la liberté avec beaucoup plus d'intensité, j'allais dire presque de vérité. Mais on les entend pas parce que au point de départ on a peur d'eux, on croit que ils portent la haine alors qu'ils ne portent que du désespoir.
Vous étiez à la campagne, curé de campagne, père, quand on vous a appelé curé de la racaille, ouais. Et vous parliez de l'Église tout à l'heure, c'est que on trouvait un peu inconvenant que vous accueilliez dans votre presbytère tous les renégats.
J'étais dans une campagne extraordinaire, j'aimais beaucoup d'ailleurs. J'étais avec des paysans, des gens très simples, des gens travailleurs, des gens qui se donnaient beaucoup de mal, qui économisaient sous par sous. Et j'étais bien sûr dans mon presbytère, entouré continuellement de gens qui avaient entendu parler d'un certain curé, Père Joseph, qui était dans un coin. Alors on venait, l'un venait me parler de ses difficultés, et l'autre, avec ses gosses, venait me demander l'asile dans mon presbytère. C'est des gosses qui traînaient et qui ne savaient pas où aller emmener chez moi. Alors tout ce monde de la campagne, qui étaient tous des bien braves gens, pour qui un sou était un sou, et qui ne perdaient pas une minute, ne pouvaient pas comprendre comme ça que leur curé, ce curé qu'ils nous appelaient, notre curé des bien braves, mais il y a trop de racailles chez lui. C'est pas bien pour un curé, c'est pas bien pour un curé, comme on disait.
Et puis un jour, vous avez fondé ce mouvement ATD, Aide à toute détresse, ça fait 25 ans maintenant. Et vous accueillez d'ailleurs tous ceux qui veulent vous aider, qu'ils soient de confession chrétienne ou pas.
J'ai eu la chance que le curé qui venait passer ainsi des heures chez ma mère, et qui était ce saint homme qui lui donnait tellement de courage, est devenu mon évêque plus tard. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, « Tu sais, Joseph, dans mon diocèse, des gens comme ceux que tu aimes, je ne les trouve pas, il n'y a pas de pauvres dans mon diocèse. » Alors, on était plein de pauvres, mais on ne savait rien, le brave homme. Alors, il m'a envoyé quelque part sur Paris, en me disant, « Là, tu vas trouver des pauvres. » Et puis, en effet, je me suis trouvé devant des familles qui étaient absolument comme, vivaient absolument comme vivait ma mère, exactement la même chose, avec les mêmes difficultés, les mêmes angoisses, les mêmes peurs. Et puis aussi cette confiance en la vie. Et puis certains, cette confiance profonde en Dieu qui animait ma mère, qui soutenait ma mère. Alors, ce sont les familles qui ont créé le mouvement. Un beau jour, on s'est réunis et puis on a dit, mais on ne peut pas rester simplement entre nous, il faut penser aussi dans les autres secteurs, dans les autres bidonvilles, dans les autres cités d'urgence, dans les cités des potoirs, dans les cités pourries, il faut aller là. Alors on est allé comme ça. Et puis alors, il y a des jeunes qui sont venus, des jeunes qui n'étaient pas tellement jeunes d'ailleurs, mais enfin il y a des jeunes aussi, mais il y en a certains qui sont restés parmi nous, ils sont restés avec moi et qui sont devenus le volontariat. Et qui ont décidé que leur vie valait la peine dans la mesure où ils resteraient au milieu de ces familles et lutteraient. Et lutteraient au nom d'un idéal, certains au nom d'un Dieu, d'autres au nom d'un idéal, car dans ce volontariat, il y a de tout. Il y a des athées, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des catholiques, des protestants, et qui se réunissent, qui sont là ensemble, qui vivent ensemble, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que la misère soit détruite, parce que si nous avons quand même reçu un ordre de Dieu, nous prêtres, et si l'Église a reçu un ordre de Dieu, c'est de détruire la misère partout où la misère existe, Dieu est violenté. Dieu est violenté.
Pourtant le Christ a dit, il y aura toujours des pauvres parmi vous, et c'est comme s'il avait annoncé que c'était inéluctable. Enfin, la science aujourd'hui dit que finalement, tout est nécessaire, la destruction, le déchet.
Dieu n'a jamais, le Christ n'a jamais dit ça. Le Christ, il a dit, malheureusement, étant donné ce que vous êtes, vous créerez toujours de la misère parmi vous. Il y aura toujours des pauvres parmi vous à cause de ce que vous êtes. Et il a dit aussi, à chaque fois que vous rencontrez un pauvre, et c'est moi que vous rencontrez, à chaque fois que vous l'accueillez, c'est moi que vous accueillez. À chaque fois que vous aimez quelqu'un, c'est moi que vous aimez. Et vous voulez donc dire par là que cette lutte contre la misère, elle le concernait tellement qu'à chaque fois qu'une communauté de pauvres s'en sortait, qu'à chaque fois qu'une famille sortait de la misère, c'était tout le paradis entier qui était transfiguré. C'était le retour, non pas du pécheur, hein, parce que les pauvres ne sont pas des pécheurs, mais le retour vers lui de ceux qui les sortaient de la misère et qui étaient souvent responsables de ce que la misère existe. Car si la misère existe, c'est parce que nous les hommes, nous acceptons qu'elle existe.
Mais Père, pour une famille qui sort de la misère, combien il reste? Vous croyez-vous que la misère peut disparaître?
Alors, je suis sûr. C'est une volonté politique des gouvernements, une volonté politique des hommes. Et c'est, si vous voulez que la misère disparaisse, il faut que dans le cœur du malheureux, on mette la passion de tirer l'autre. Malheureusement, c'est pour ça que l'on fait lorsque l'on a une famille que l'on trouve à peu près bien et qui est dans la misère, alors on s'accapare, on la coupe même des autres, on lui dit mais il ne faut pas que vos enfants fécondent ces gosses-là, vous n'en sortirez jamais si, etc. Les gens commencent à avoir peur et commencent à ne plus fréquenter leur voisinage. Et alors on sort des gens de la misère comme la pêche à la ligne, l'un après l'autre. Or la misère, elle sortira, les gens sortiront de la misère et elle sera détruite lorsque nous aurons mis au cœur des malheureux, de ceux, au cœur de ceux qui la supportent, la passion de la solidarité et de l'entraide. Par conséquent, que nous aurons, si vous voulez, eh bien, propagé au fond, une sorte de besoin qu'autour de soi, la misère n'existe plus.
Il faudrait peut-être renoncer à la richesse ou à l'aisance. Je pense à Charles de Foucault qui, dans une prière au Christ, disait qu'il ne pouvait pas accepter de vivre à son aise, alors que le Christ avait été pauvre. Mais c'est une grande partie de l'humanité qui est souffrante et pauvre maintenant.
Oui, mais c'est vrai, mais je crois que si on commençait déjà nous-mêmes par bien changer un peu notre regard sur les pauvres et changer un peu nos priorités dans nos vies. Le malheur, c'est que nous prenons, considérons comme important des choses qui ne le sont pas. Et puis nous nous battons pour avoir une nouvelle voiture, nous nous battons pour avoir une maison secondaire, nous nous battons pour avoir plus d'aisance. Et puis une fois que nous avons cela, c'est comme si nous n'avions rien, car il faut que nous recommencions et nous voulons à nouveau encore avoir autre chose. Au fond, nous ne savons pas mettre nos priorités là où elles sont. Pour un homme, quel qu'il soit, la priorité des priorités, c'est pas de mourir avec de grands biens autour de soi, mais c'est de pouvoir se dire en se présentant devant Dieu, à cause de moi, des êtres ont été heureux. Et Seigneur, je vous présente ces êtres.
Merci, Père Iznitsky.